Et maintenant, les nouvelles du front. Le président brésilien d'extrême droite a limogé jeudi son populaire ministre de la Santé. Les deux hommes étaient en désaccord total sur la lutte contre le nouveau coronavirus. Délation. Les appels pour délation pour mauvais confinement sont à la hausse. Parmi les villes et les régions championnes, le Var, Paris, Bordeaux et le Grand Est.
Il est sorti !
Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille en direct depuis un appart confiné, bien sûr.
Yes, yes, vous écoutez Privé de sortie sur Radio Galère 884 à Marseille et alentour. Partout où vous voulez sur radiogalère.org, mais aussi sur Radio des Confins à Douarnenez, sur Radio d'ici dans la Loire et Nord-Ardèche, Radio Piquez à Brest et Radio Finemancon à Marseille aussi.
Salut à tous.
Ça commence à faire du monde, salut tout le monde.
Salut à toutes.
Bon, c'est lundi, on est super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 27 avril. Le déconfinement, c'est prévu dans 2 semaines pour la plupart d'entre nous. Et d'ailleurs, on se demande comment ça va se passer cette histoire. La vérité, ils ont l'air tellement à l'arrache que quand Macron il sort une annonce à la télé, derrière ses ministres ils se font de la tachycardie pour rattraper le coup et essayer de rendre le tout réaliste. Ça change d'avis toutes les 30 secondes tout en se permettant de nous causer comme à des mômes. Le conseil scientifique apparemment il est là pour décorer et il s'en plaint pas. Non mais tellement c'est la dèche, il y a carrément un marché noir des masques. À Saint-Denis, ils ont intercepté 140 000 masques en provenance des Pays-Bas, a priori qui étaient destinés à la revente pour le BTP. Non mais je te jure, tu lis l'article, tu sais pas si tu dois rire ou pleurer, ça parle de saisie record, de grossistes, de revente illégale, putain la bicrave de FFP2 quoi, ça fait pitié, sérieux. Si on en arrive là, c'est quand même qu'il y a un gros problème de fond, non? Et je te jure, ils sont tellement bidons que quand ils me disent que le 11 mai, c'est bon, je peux y aller, c'est des confinements, à ce moment-là, je vais commencer à flipper, à me confiner encore plus quoi. Non mais en vrai la seule institution qui reste aussi solide qu'un tronfa c'est la police hein, pour défoncer les habitantes et les habitants des quartiers populaires, démonter les camps de migrants, intimider celles et ceux qui oseraient afficher leurs opinions au balcon, discipliner tout ce petit monde à l'ordre macronien et puis se préparer à réprimer tout mouvement social post-confinement. Le mot d'ordre, surveiller et punir.
Surveiller et punir, d'ailleurs on en parlera dans cette émission aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos mails, enfin vos participations à l'adresse mail pvsortie@riseup.net. N'hésitez pas, on veut cette émission participative. On a également un Facebook de l'émission sur lequel vous retrouvez tous nos podcasts. Ça s'appelle, c'est Privé de sortie radio confiné sur Facebook. D'ailleurs, sur ce Facebook, vous retrouverez aussi tous les numéros de téléphone qu'on avait l'habitude de donner à l'antenne, mais qui prennent un petit peu trop de temps à énumérer. Donc, du coup, tout ce qui est violence conjugale, violence sur les femmes, les enfants maltraités, personnes exilées qui galèrent, les questions de droit du travail, sur les questions de violence policière, les numéros du planning familial, de l'envolée, etc., vous les retrouvez sur notre page Facebook. On vous épargne le listing et puis vous, sur Radio Galère vous retrouvez également Parloir Libre, l'émission de messagerie entre les détenus et leurs proches. C'est tous les lundis, mardis et mercredis de 20h à 21h et les jeudis et samedis à 20h30, 22h pour le jeudi, 19h, 21h pour le samedi. Et il y a quand même un numéro de téléphone qu'on donne, 07 58 29 99 35, c'est le numéro de téléphone pour laisser vos messages à vos proches incarcérés.
Yes, et aujourd'hui la playlist ce sera du rap sénégalais avec les bons conseils du poteau Mordienne. Big up à toi, on est ensemble. Et précisément, là c'est un peu la nouvelle scène sénégalaise qu'on va écouter. En particulier, on va commencer avec un morceau qui s'appelle Antidote, un morceau d'actualité pour le moins, d'un rappeur qui s'appelle Elzo Jamdong. Voilà.
Yeah, nenañ ma africain xamul luy jox africain du dégg lu dul ay door ma mami tuba bi non japp ñu daw mo dess ñu jëri ñu dax ak cioy africain jubolal mu ne day jadd africain couvre fa sax mënul tok africain lan moko téré mu tak te africain bari na jama ak or africain jot nañu gëm suñu bop sam suñu bop africain jot nañu ar suñu bop ku bëgg dëkk ci ay bum ñu top yé fever bi kaas duko dox fever bi yag na lool yé yag nañ baxal ay xop way xamuguñ dañ lañuy gën ci lool professeur jangal mu lu tax politique bi tamu ñu noor Monsieur le géologue, gaz, bac, pétrole, bican, mon comment? Jamono, chaucher, beligue, n'y a qu'un ak Babylone. Teranga, amour, tu jungle, bigaine, tu parles antilope. Professeur jungle, moloutar politique, bitam, on y nord. Monsieur le géologue, gaz, bac, pétrole, bican, mon comment? Tout tard, n'est le tag et qu'il est tagal, c'est anti-mort. Jugolo, ligue, tu fous le que c'est moi, c'est du antidote. Yagne, tchol, why bis de ne chill? Yagne, pire. Why bis dina mol yag na chul way gam na ni bis dina chill yag na bir way gam na ni bis dina mol africain bala ngay tup du jubilé victoire bi na wor on dalé wolu kep kou le signe rek gag ngay don africain bala ngay tal fe ci xolo noy moto so non africain bala ngay tal fe ci xolo noy moto so non yag na chul way bis dina chill yag na bir Why bis dina mol, yagna chul. Why gum nari bis dina chill, yagna beer. Why gum nari bis dina mol. African balagi tip di jubile victoire bina war. Onare wolu kep kule signe rek gak ngay don. African balagi tal fe ci xolal ne moy tosu non. African balagi tal fe ci xolal ne moy tosu non. Moy tosu non.
Suñu réew mi jono ku nek wacc na fi badal mu nek wacc na ci réew mi
Vous êtes bien sur Radio Galère sur le 88.4 et aujourd'hui on va d'abord écouter un entretien avec Mathieu Rigouste qu'on a eu ce matin, ce midi d'ailleurs, qui nous parle de confinement, de quartier populaire et de néocolonialisme dans cette crise. On aura également une tribune des Gilets Noirs, les chroniques de PF et de F, et d'ailleurs on va même commencer par la chronique de R comme d'habitude.
Ça fait 3 jours, ça fait 5 jours, ça fait 8 jours, ça fait 10 jours, ça fait des années qu'on est enfermés chez nous. Mais comment ils veulent qu'on tienne? Mais c'est eux les grands malades, pas dans leur tête ou quoi? Mais vous êtes dangereux, on va vous la mettre à l'envers. Chronique de confinement. On ne compte plus les mouvements de solidarité populaire qui se dressent à Marseille. La place laissée vide par les institutions s'est vue réinvestie par le collectif. Bah, c'est toujours ça de gagner. Après nous avoir dépossédés de tous les espaces publics non marchands, il aura fallu une bonne petite crise sanitaire pour qu'ils aillent tous se planquer à la campagne et nous, d'en profiter pour se réapproprier nos vies. Avec une copine, on discute. On se dit qu'on n'a pas du tout envie de devenir des gestionnaires de la misère. On parle surtout du fait que de nombreuses personnes se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir trouver à manger. Parce que ce qu'il est urgent de régler, c'est la question de pouvoir répondre aux besoins vitaux comme se nourrir et se loger. Va bien falloir qu'on les trouve, ces moyens, pour toutes et tous, dès maintenant et pour les jours à venir. Se pose aussi la question de ce que vont devenir les réseaux et les liens que nous avons tissés durant cette période. Seront-ils noyés dans la volonté de l'État de poursuivre sa folie maladive à maintenir une économie? Est-ce que nos voisins retourneront bien gentiment au turbin? Et est-ce qu'ils se rappelleront de leurs bonnes actions, comme un épisode de leur histoire où ils ont fait preuve de bravoure inconditionnelle? Que va-t-il en rester? Après avoir bien plombé l'ambiance, on refait un petit point sur ce qui est utile de construire à notre échelle. La discussion glisse sur les récups de denrées de première nécessité. Et assez vite, on fait le constat que les collectes sont essentiellement constituées de pâtes, de riz, de patates et de biscuits. Autrement dit, nous sommes en train de nous assurer un avenir consacré à la constipation. Alors, parlons-en du transi. Non mais sérieux, va falloir varier les ballots, hein ? Parce qu'on va se retrouver à devoir gérer une autre crise si ça continue. L'occlusion intestinale. Alors oui, les légumes, ça tient pas des masses la route.
Mais les conserves, ça existe. Faut y penser, hein. Parce que perso, manger des féculents toute la semaine, ça me fait pas rêver non plus.
Yo, vous êtes sur Radio Galère, privé de sortie. Effectivement, faut y penser aux légumes, pensez-y. Parce qu'il paraît en plus, l'hôpital il est un peu bouché aussi en ce moment, donc... N'hésitez pas. Bon, on enchaîne avec les brèves. C'est n'importe quoi. Bon, j'ai l'impression qu'on en parle tous les jours en ce moment. Nouvel acte de bravoure de la police. Cette fois, c'est à Toulouse, où un mec s'est fait tabasser au sol à coups de muselière. Donc, muselière avec le bout en métal, là, j'imagine, vu les giclées de sang qui ont été filmées par la suite. Le syndicat de keufs Alliance, qui doit se prendre apparemment pour le porte-parole de la police nationale, justifie le passage à tabac en expliquant que le gars était balèze, il était violent, il s'est échappé d'un service psy de l'hôpital de Purpan, il était potentiellement porteur d'une arme de poing et d'une grenade, voilà, récupérée à l'hôpital sûrement, ou je sais pas où.
Tout est potentiel, bien sûr.
Voilà. Et si les Schmitt l'ont éclaté à coups de muselière sur le crâne, c'est parce qu'il n'avait pas le taser. Voilà. Donc apparemment, selon des témoins, il y aurait un des keufs qui aurait ordonné à son chien d'attaquer et il aurait refusé. Le clébard a plus de bon sens que le maître.
Et ouais, c'est pas la première fois. D'ailleurs, il y avait même eu un article de France 3 qui justifie aussi cette intervention. Je crois que l'article, c'était en mode « ce n'était pas de la violence gratuite » et on confirme c'est de la violence payée puisque c'est un métier fonctionnaire de police. Par ailleurs, toujours à propos de violences policières, largement relayée sur les réseaux sociaux ce week-end, une vidéo a été diffusée donc, qui laisse entendre des propos racistes et criminels de policiers, ainsi que des bruits de coups et les cris qui vont avec, suite à l'interpellation d'un homme qui s'était jeté dans la Seine pour les fuir. Alors quelques morceaux choisis comme ça. Un bico comme ça, ça nage pas. Haha, ça coule. Tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied. Et tout ça dans une escalade de rire et tout ça. Toute continuité avec l'État raciste et sa milice armée qui ont mis en œuvre le massacre du 17 octobre 61 à Paris n'est évidemment pas fortuite.
Ouais, d'ailleurs, l'IGPN a été saisi sur cette affaire-là, mais bon, on le sait, ils sont pas payés à la mise en examen, ceux-là. Ouais.
Et ça, c'est gratuit.
On vous parlait banderole aux fenêtres et harcèlement policier la semaine dernière. Jeudi, à Toulouse, il y a une personne qui a fait 4 heures de garde à vue au motif d'outrage au chef de l'État, délit qui a été abrogé il y a 7 ans. Les flics étaient passés 2 jours avant pour ordonner aux habitants de la maison de décrocher la banderole sur laquelle était inscrit « Macronavirus, à quand la fin ?» Ça va, ça reste soft en plus.
Ouais, terriblement subversif, ironiquement.
Voilà, c'est ça. Et bref, la banderole a été décrochée et une des occupantes se voit quand même convoquée au commissariat, retenue en GAV pendant 4 heures donc, et interrogé sur ses opinions politiques avant d'être relâché sans poursuite immédiate. Le PROC a confirmé qu'une enquête a été ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à la direction départementale de la sécurité publique. Voilà, vraiment un danger pour la sécurité publique. Alors, il dit, les investigations vont se poursuivre avec des auditions et des éléments de la police technique. Donc là, on va tranquille vers le délit d'opinion bien assumé, des intimidations policières, une gestion sécuritaire de la crise. Enfin, on se répète, quoi.
Ouais. Et puis, hier soir, dimanche, donc, des prisonniers de la prison de Fresnes ont provoqué un incendie aux alentours de 23h au niveau d'anciennes cuisines qui servent de stockage. Le feu aurait été provoqué par des jets de projectiles inflammables lancés depuis les cellules sur une toiture en fibre de verre. L'incendie a fait aucun blessé et n'a pas nécessité l'évacuation de détenus. Et par contre, FO pénitentiaire précise bien qu'ils vont procéder à des transferts pour éloigner ceux qui ont allumé cet incendie. Il s'agit bien de punition sous forme de transfert disciplinaire. Force et soutien à toutes les personnes qui sont enfermées. Il va falloir mettre la pression pour que les parloirs et toutes les mesures prises en tôle reviennent le 11 mai et même avant pour l'accès aux soins de toutes les prisonnières et prisonniers à défaut de leur libération.
Dans un autre domaine, l'ONG Foodwatch nous apprend que l'industrie agroalimentaire, confrontée à des difficultés d'approvisionnement, a obtenu de pouvoir changer la composition d'aliments sans obligation d'information. Contactés par l'AFP, les services de la répression des fraudes confirment appliquer une tolérance ponctuelle sur l'étiquetage des aliments du fait de la crise sanitaire. Les industriels de la malbouffe en rêvaient, le Covid et le gouvernement l'ont rendu possible. Il est évidemment probable qu'ici, comme ailleurs, le temporaire devienne la norme.
Le conseil scientifique mis en place par l'État s'était positionné contre la réouverture des écoles en mai. Il préconisait une rentrée en septembre et pour autant ne trouve pas choquant que le gouvernement ne suive pas ses recommandations. Arnaud Fontanet, le directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes de l'Institut Pasteur de Paris, il dit « Nous, on fait des recommandations d'un point de vue sanitaire. Le gouvernement, lui, fait des arbitrages qui prennent en compte toutes les autres dimensions, bah, notamment économiques, hein, si on avait encore des doutes. Du coup, c'est des mesures assez délirantes qui sont recommandées. La distanciation d'un mètre en classe, dans les couloirs, à la récré, à la cantine, le nettoyage des salles de classe plusieurs fois par jour, le port du masque à partir du collège, etc. etc. Je sais pas si vous vous souvenez bien de vos années collège et école et tout, là, mais moi j'imagine mal comment c'est possible cette histoire-là. C'est un peu bizarre, ouais.
J'avoue. C'était un des grands chantiers Covid dont comptait s'enorgueillir le gouvernement. Un rapprochement entre Air Liquide, PSA, Valeo et Schneider Electric pour produire en masse 10 000 respirateurs artificiels en un temps record et permettre ainsi de démultiplier le nombre de lits en réanimation pour les personnes affectées le plus sérieusement par le virus. Une enquête de Radio France affirme que le modèle choisi par le gouvernement, sur proposition d'Air Liquide, ne peut pas être utilisé dans les salles de réanimation. Ce serait donc près de 8500 respirateurs qui auraient été produits pour rien ou presque, puisqu'ils ne seraient pas adaptés à la prise en charge d'une détresse respiratoire aiguë compliquée, mais seulement au transport des patients urgents par ambulance. Un scandale de plus à ajouter à la liste des coûteux errements gouvernementaux.
En raison du contexte sanitaire, la validité des titres de séjour rallongée une première fois de 3 mois en mars est à nouveau rallongée de 3 mois. Ça concerne les titres suivants qui auront expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020. Donc les visas de long séjour, titres de séjour, autorisation provisoire de séjour et récépissé de demande de titres de séjour. Voilà, au-delà de ça, il y a beaucoup de voix, même parmi les élus, qui demandent une régularisation au moins temporaire de tous et toutes, notamment pour garantir un accès aux soins, comme c'est le cas déjà au Portugal, par exemple.
Si, si. Et par ailleurs, on avait tous compris que les personnes des hôpitaux, des EHPAD et les praticiens libéraux, parmi tant d'autres, manquent toujours de masques FFP2 et que cette carence leur vaut d'être contaminés par milliers par le Covid-19. Mediapart nous apprend ce week-end que dans des grandes entreprises non liées au secteur dit prioritaire comme Renault ou Michelin, les salariés sont mieux équipés que beaucoup de soignants au nom de la continuité d'activité chère au gouvernement. Alors, il semble évident que les salariés doivent être protégés au travail. Ce qui interroge ici, c'est bien la priorité donnée à la reprise de ce travail sur les impératifs sanitaires du moment. Et voilà pour les brèves, on va pouvoir enchaîner sur un petit son toujours de rap sénégalais, rap Galsen. C'est Is 814 et le morceau il s'appelle Dakar Trap 2.
Sorna si yadak chocolat, lingma def bichi goudi oulala, nanguna yay sama ebola. Limu yek sama yaram se jikola Churai bingu def kulu ku jay Vrema law bibi di namarai Nemali tot cheri songu me yow mi rek si jangu me Bulan nekhe genel sama yay Wala sanga dak sama bay Paske yow ninga mel kendo ko mel no no Fine coulé le pelo parce que dingue yeme 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 Ko mere mere munul dem Woko yen ñar ngeen jema waxtaan Def ko ni sa dom di ko naxtaan Wax deug yey xamé tuma le Te bo fi wax sax leg ma gene le Sey nga ba paré ba ko mu sey Ki bu gene kër ki do tuma xey Set na bu set yow ya koy toy Nenga munul sokku munu moy
sexy wine bi dengen koy jow 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 bubu gete di dengen di jow parce que de feu yeme 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 war ma kagn gagne bi ay ndax te son si nena bu ma la fi bay de feu yeme wa de feu yeme wa so war ma kagn gagne bi ay ndax te son si nena bu ma la fi bay de feu yeme wa gagne bi ay.
De galère et de sortie.
On est en ligne avec Mathieu Rigouste. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Donc, juste pour te présenter vite fait à nos auditeurs et auditrices, bah, toi, tu es militant et chercheur en sciences sociales. Tu enquêtes et tu participes aux luttes de base contre les systèmes de domination et d'oppression. Et on te doit en particulier des travaux qui ont révélé bah, la genèse et la permanence coloniale des dispositifs de gestion des révoltes dans les quartiers populaires. On se disait que bah, ce serait chouette un peu de discuter avec toi de la situation, et en particulier bah, dans les quartiers. Et peut-être pour commencer tout ça, bah, qu'est-ce que t'évoques cette histoire d'état d'urgence sanitaire ?
Oui, bah, bon, le dispositif d'état d'urgence, il évoque il m'évoque deux choses. Il m'évoque une histoire coloniale, évidemment, puisqu'il est fondé et utilisé principalement pendant la guerre d'Algérie, ou en tout cas pendant l'écrasement de la révolution algérienne, enfin, la tentative d'écrasement par l'impérialisme français de la révolution algérienne. Mmh. Et voilà. Après, on a quelques autres utilisations qui sont en général coloniales ou endocoloniales, si on veut parler de la situation des quartiers populaires en 2005. Voilà. Il y a une autre histoire qui est en fait celle de tous les États, c'est-à-dire la capacité à suspendre le droit prétendument normal pour exercer un droit prétendument exceptionnel. Et en fait, c'est pas un droit normal et un droit exceptionnel qui se passe le relais, c'est plutôt les formes du droit exceptionnel en permanence, c'est-à-dire l'écrasement des quartiers populaires, des colonies, des migrants, les politiques des frontières, les politiques d'enfermement, etc., les politiques de surexploitation, bon, d'exploitation aussi, les politiques de d'hybridation militaro-policière, etc. En fait, on voit qu'elles étendent les champs d'application de dispositifs qu'on dit exceptionnels, mais en fait qui fonctionnent en permanence contre des parties de la population. La notion d'exception, elle apporte pas grand-chose, en fait, mais plutôt elle nous embrouille, plutôt qu'elle nous permet de comprendre comment ça fonctionne, et que voire même elle fait partie un petit peu de la mythologie bourgeoise, quoi, de l'état de droit.
Du coup, ce qu'on pourrait entendre comme des dispositifs d'exception, finalement, ce sont plus des sortes de laboratoires un peu.
Il y a une fonction laboratoire. Après, il faut faire attention comment on l'utilise, parce qu'en fait, l'ère sécuritaire du capitalisme, elle fait de tout terrain un laboratoire, c'est-à-dire déployer un drone au Louvre, c'est pas un quartier populaire, c'est bien une fonction laboratoire, essayer de voir comment ça réagit, les états-majors vont faire des rétextes dessus, des retours d'expérience. Bon, ça c'est du langage militaire, mais c'est pas juste les quartiers populaires qui serviraient de laboratoire pour l'élaboration de technologies de pouvoir qui après seraient appliquées à la vraie population ou aux vrais mouvements sociaux. Bon, et en l'occurrence, il y a une fonction laboratoire dans les quartiers, mais il y a une fonction laboratoire partout. Il ne s'agit pas de se tromper sur ça, parce que le régime d'oppression policière, mais pas seulement policière, enfin, à tous les niveaux, économique, politique et social, des quartiers populaires, il n'a pas, sa fonction principale, c'est pas d'expérimenter des dispositifs pour les appliquer ailleurs ensuite. Il est de contrôler, de surveiller, d'opprimer, de réprimer des quartiers qui sont là, qui sont les lieux de vie, d'organisation, de reconstitution de communautés, du prolétariat, et puis en plus des strates des strates opprimées et les plus exploitées du prolétariat. C'est-à-dire c'est une fonction centrale pour une société capitaliste et impérialiste. La classe qui domine a d'ailleurs raison de se méfier des classes dominées. Ça vient remontrer encore que ces rapports de domination, ils traversent la maladie. Et quand, en, en, en tant que telle, c'est pas tant la maladie le problème que ça, que ce qu'elle vient, la manière dont elle est gérée socialement et la manière dont elle va frapper des classes qui sont démunies de capacités de soins collectifs à hauteur de la situation et puis en plus et de capacités de d'autodéfense sanitaire, on pourrait le dire. La plupart des gens l'ont vu, mais il s'agit de le redire quand même, parce que c'est inégalité à tous les étages, ce confinement. C'est-à-dire à la fois entre les gens qui sont, qui peuvent ne pas sortir travailler, il y a des inégalités entre les statuts de job, enfin voilà, et de conditions d'enfermement. Bon, bien entendu, selon que t'es dans une villa avec jardin ou dans un T2 avec 5 gamins, évidemment. Selon le boulot que tu as à faire en intérieur, parce qu'il y a aussi des gens en fait qui se retrouvent avec à faire du 60 heures par semaine devant des ordi, aussi avec les gamins à la maison aussi, et donc c'est pas des conditions de vie non plus, en tout cas c'est à mettre en opposition avec des gens qui eux peuvent juste profiter de leur confinement dans des villas pour écrire des belles choses ou je sais pas quoi. Après, je disais, entre ceux qui sortent pas, bah pareil, parce que du coup, les personnes sans papier, il y en a énormément qui ne sortent plus depuis que les flics contrôlent les papiers d'identité en même temps que les attestations. Dans les personnes qui parlent pas bien français, etc., ou bah, qui peuvent avoir des titres de séjour, en fait, c'est pareil. Il y a plein de gens qui ne sortent pas juste pour pas croiser la police et se retrouver dans des situations problématiques. Donc voilà, ça, c'est encore des conditions différentes d'autres personnes, les gens qui ont accès à la possibilité de faire des attestations ou pas, etc. Dans les foyers d'immigrés, c'est les conditions de vie là sont abominables. Les gens peuvent plus sortir. S'ils sortent pour trouver le moindre truc, et ben la police tourne autour et leur tombe dessus. Enfin, voilà, c'était pour dire que c'était l'inégalité à tous les étages dans ce confinement, dans les manières même de pouvoir le ruser ou de le traverser. C'est comme s'il y avait des niveaux d'inégalité en les uns dans les autres.
À ce propos-là, là, pour documenter tout ce que tu es en train de décrire là, il y a un rapport de l'Observatoire de l'état d'urgence sanitaire qui est sorti le 16 avril 2020 et qui donc du coup documente toutes ces situations, tant dans les CRA, dans les prisons, dans les foyers d'immigrés, dans les quartiers populaires et tout ça. Ce qui est un peu frappant là précisément dans cette histoire de coronavirus, c'est à quel point il y a une réponse sécuritaire à des carences quand même qui sont a priori sanitaires. L'usage de la police, des drones, des applis de cracking, ces histoires de couvre-feu. Il y a toute une phraséologie guerrière de la part de Macron. Donc on a entendu évidemment ce truc « nous sommes en guerre ». Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus justement sur cette gestion très très guerrière d'une situation quand même au départ qui se veut sanitaire ?
J'ai l'impression un peu comme toutes les actes de communication de ce gouvernement. Pardon, je pense que les États en général mentent au peuple, c'est leur fonction, c'est comme ça qu'ils se maintiennent. Mais celui-là, il est particulier quand même, il fait l'inverse de ce qu'il dit, quoi. Et il fait pas juste de mentir par omission ou quoi que ce soit. Et bon bref, et du coup quand il dit qu'il mène la guerre, encore une fois, c'est pas la guerre au virus, c'est la guerre aux classes dominées. Et on s'en doutait dès le début, quoi. Ça vient révéler, mais en fait ça vient amplifier des rapports de domination qui étaient déjà, on avait l'impression qu'ils étaient déjà industrialisés, qui étaient déjà de haute intensité, qui étaient déjà, on avait l'impression poussés au maximum, sauf que ce qui se passe avec le confinement et en fait avec le fait qu'il soit légitime au départ, lié à la fois à la peur du virus, mais en fait au fait qu'on peut pas faire confiance à un État capitaliste pour nous protéger de trucs comme ça. Bon bah du coup le confinement a permis de faire s'évaporer le rapport de force dans la rue qui avait été construit depuis une dizaine d'années à travers les derniers grands mouvements. Et qui, en fait, du coup, c'est ce qu'on voit exister, en fait, nous protège d'une certaine manière de passage à des intensités encore plus hautes. Alors après, ça dépend c'est qui le nous, par exemple, parce que, du coup, là, ce qu'on voit se passer dans les quartiers populaires, en fait, et que note l'Observatoire de l'état d'urgence, c'est les mêmes régimes de férocité qu'on voit d'habitude. On a l'impression que ça, c'est encore plus arbitraire que d'habitude, mais plus arbitraire, je vois pas bien ce que ça veut dire. C'est déjà organisé selon la lecture raciste de la société par les policiers. Les grandes lignes du fonctionnement de ce qui se passe en termes répressifs étaient déjà là. On dirait qu'il y a une intensification. Et puis, comme on vient de le voir depuis la séquence qui s'est ouverte il y a bientôt une semaine, en fait, il y a un retour de conflictualité directe dans la rue. En fait, il y a un retour d'opposition, de résistance populaire à l'oppression policière, d'abord dans les quartiers. Et je pense que ce sera intéressant à noter et à redire et même et à crier les premiers qui sont sortis pour rétablir un rapport de force populaire et en fait mettre en place autre chose qu'un confinement imposé par l'État et qui bien entendu se fout de notre santé, c'est les habitants des quartiers populaires.
Ouais, du coup, ce dont tu fais état, bah, c'est précisément que depuis une semaine, il y a eu un certain nombre d'émeutes.
Il y a Abinev Lagarenne, il y a une personne qui a été éjectée de sa moto par un coup de portière de policier, qui était, le coup de portière était évidemment conscient et visait à faire chuter le motard. C'était extrêmement violent pour tout le monde sur place. Et du coup, il y a un peu cette idée-là qu'il y aurait d'autres quartiers qui se seraient soulevés en solidarité. C'est peut-être vrai, en tout cas nous ce qu'on a observé avec les gens avec qui on discute, ou moi j'ai grandi à Gennevilliers en banlieue parisienne, j'appelle les potes, on voit, c'est plutôt qu'en fait tous les quartiers se sont mangés des coups de pression à répétition, des humiliations, des violences extrêmement dures depuis le début du confinement, et qu'en fait c'est plutôt chaque quartier réagit à ce qu'il a vécu lui, et voit très bien que les autres quartiers le vivent aussi. Mmh. Du coup il y a bien une solidarité entre quartiers, mais c'est pas tout le monde en soutien à cet acte de violence policière qu'il y a eu à Villeneuve. C'est plutôt, par exemple, pour Toulouse, ça a bougé beaucoup, beaucoup les premières nuits, en même temps que Villeneuve. C'était pas spécifiquement en soutien à Villeneuve, c'est parce qu'il y avait aussi énormément de violence policière sur Toulouse. En fait, quand on creuse un peu sur toutes les régions, il se passe, il n'y a pas de quartier populaire, là, qui passe à travers le régime de violence policière spécifique du confinement.
Ces émeutes, elles augurent peut-être en effet d'un déconfinement qui sera difficile pour le pouvoir. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. On peut avoir le sentiment que le pouvoir est déjà en train de préparer ses suites. Dans quelle mesure, toi, tu trouves que ce qui est en train de se générer en ce moment en termes d'auto-organisation et tout ça peuvent être les prémices de quelque chose qui pourrait rendre l'exercice du pouvoir un petit peu difficile après toute cette séquence-là?
A priori, il est en train de le préparer, en tout cas, hein, vu que les fuites organisées des services de renseignement dans la presse affiliée, du coup, dans les services de communication qu'ils organisent en permanence dans la presse, pour préparer un protocole de répression, voire
on peut imaginer des
contre-insurrection. Mmh. Et du coup, oui, il y a une préparation des mentalités, des consciences au fait de pouvoir déployer un système répressif très dur à la sortie du confinement face à un mouvement social qu'on imagine dur. De la même manière qu'il y a eu un peu une espèce de, je sais pas comment dire, fétichisation ou romantisme sur les gestes émeutiers, là. Où effectivement, c'est intéressant hein, de regarder ce qui se passe avec les feux d'artifice, etc. Et qu'il y avait effectivement des nouveaux gestes, des nouvelles formes d'organisation, et que c'est pas de l'émeute, de la colère, comme ça, présenté comme quelque chose qui serait incontrôlé, une sorte d'hystérie populaire, mais que c'est bien des formes d'auto-organisation, s'affronter à la police dans la rue, se mettre en danger collectivement.
C'est tout ce qui est politique.
Ça suppose de s'organiser, quoi. Mm-hmm. Et du coup, c'était aussi de dire qu'il va falloir se préparer à un contre-coup sur ça. C'est que là, les services de renseignement de la police sont en train d'étudier tout ce qui est possible de vidéos sur les Insta, sur les Snaps. Ils récupèrent bien entendu, comme d'habitude, tout ce qui est traces d'ADN sur ce qui a été lancé un petit peu partout. Mmh. Et donc si, pour l'instant, il y a effectivement, ils n'ont pas encore lancé de rafles et de perquisitions surprises dans les quartiers où ça a pété, c'est en préparation, c'est évident. Et du coup, il s'agira aussi pour tous les gens qui ont célébré le geste émeutier, qui heureusement ont manifesté leur solidarité avec les révoltes, il faudra être là à ce moment-là, parce qu'il va venir un moment où ils vont aller chercher les gens, et où il va y avoir des peines, il va y avoir une justice expéditive, et là à ce moment-là il faudra de la solidarité, il faudra des sous, il faudra des avocats, il faudra des rassemblements, il faudra tout ce qu'on peut de force et de solidarité, parce que c'est sûr que le pouvoir va pas laisser ça passer comme ça, c'est ce qu'il fait en permanence, et ça s'assera sur ça pour réprimer tout ce qui bouge à ce moment-là, quoi.
Ouais, à ce propos-là, j'ai envie de citer un petit truc que j'ai trouvé dans le rapport de l'Observatoire de l'état d'urgence sanitaire. Il est écrit « Le confinement souligne la structure coloniale de la société française, mais il l'essouffle en même temps d'une certaine manière, car dans les formes de résistance et d'auto-organisation populaire mises en place pour survivre, la question de l'indépendance et de l'autonomie renaît nécessairement. »
Ouais, c'est ce qui s'observe un peu partout. Si les gens veulent aller voir le rapport de cet observatoire, c'est assez intéressant. C'est des collectifs militants qui se sont mis ensemble pour bosser, donc notamment les Gilets Noirs qui avaient déjà commencé à faire de l'enquête en interne, de l'auto-enquête à l'intérieur des foyers pour voir ce que les gens subissaient en termes répressifs, en termes de galères, et puis de l'enquête populaire, c'est-à-dire pour établir les lignes de solidarité, les cibles, désigner l'ennemi, enfin pour pouvoir organiser de la lutte, quoi. Et du coup, moi, ça, autour de ce que les Gilets Noirs avaient déjà commencé, il y a d'autres collectifs, des militants anti-impérialistes, des militants antifascistes, des militants féministes, etc., des gens de différentes luttes qui sont organisées sur la question des prisons, etc., pour essayer de rendre un rapport qui donne à voir un petit peu ce qui se passe en termes de violence d'État dans le confinement. Donc, dans les foyers d'immigrés, dans les centres de rétention, dans les prisons, dans les quartiers populaires, dans les colonies, comme là tu donnais un exemple, et aussi dans les EHPAD et instituts médico-éducatifs. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe et puis de tracer des lignes d'organisation, de solidarité, de lutte. C'est mis en ligne sur le site de acta.zone. Ouais. Il y aura d'autres rapports qui vont arriver. Ouais. Il y a des résistances collectives qui se créent, qui se déploient de partout, et donc dans les colonies, dans les quartiers, dans les prisons, dans les centres de rétention, etc. En fait, on voit partout émerger à la fois des anciennes formes d'organisation mais qui se réagencent, et puis des nouvelles formes, des formes complètement innovantes. Alors là, qu'on pense soit aux brigades de solidarité, soit vraiment à différentes formes de réseaux plus ou moins formels ou informels dans des quartiers populaires ou dans des quartiers mixtes, pour assurer de l'entraide, de la solidarité. Du coup, c'est indispensable que dans ce désastre-là, on voit bien ces choses-là. Parce qu'en fait, c'est sans aucun doute à partir des luttes qui sont activées en ce moment et de cette manière-là, qu'on va pouvoir construire les luttes de sortie du confinement et les luttes qui s'affronteront à la société qui va nous tomber dessus à la sortie de ça, quoi. Il faut qu'on arrive à voir comment les rapports de domination fonctionnent dans l'idée de les bloquer, de les saboter. J'ai jamais oublié qu'il y a des résistances de partout et il s'agit pas tant des fois de les initier que d'aller les appuyer ou que de leur permettre de coopérer, de s'organiser entre elles, de fabriquer du coup des moyens. Parfois c'est d'ordre technique aussi, quoi. Et cette question là de comment on va en sortir, quel confinement, quel post-confinement, ça va dépendre encore une fois de la détermination et des forces que les gens qui veulent que ça change vont mettre en jeu. Ça va dépendre de ce qu'on fait toutes et tous dans les jours qui viennent, quoi. Enfin, chaque jour et dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. On a tout intérêt à absolument rien lâcher, quoi.
L'histoire n'est pas écrite, à nous d'agir dessus, pour le coup. Même si on est à un moment particulier parce qu'à la fois l'État, il est hyper fragilisé au final et en même temps en train de montrer l'arsenal de toutes ses forces et tout ça, mais il y a quelque chose à jouer.
Merci beaucoup Mathieu.
Merci beaucoup Mathieu.
Merci à vous, bon courage de votre côté, de la force, tout ça.
Privé de sortie.
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 Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Balik ala nek ci yon nek ci dekk ci baña tok dere to enemy sama kaw demula dem jin lima don never give up amna gudi yu tis duma daw duma fat bu may genn galé papa xol tay ci fils fumu tok lo ñame ñak lo ñame lo ñame lo ñame lo ñame ñak lo ñame ñak lo ñame lo ñame ñak hey amna ay defé ju mam ay metti ju mumay ak échelle mu daanu gis na ay serpent yu mandu maintenant mouma seko trompe gelo jam dus na gam nit kuma xamul vote afrique ma solon gumba kagul bañuma jeunesse bu nelaw wa jeunesse neew gën bu yew kalu nek ci yoon fin de vie yene yu bon rend fi gende yu mbow pour sama dere tu gor yow yow negum tok taluma kebe tu ciow ñom dañu ciéné té amuñu job suna ay rapport yo xam ba may ram séri séré gi daw dama ko xaré fils dama job pour sama avenir sama dom fils dama agné rivre ren dox jang nga amo fit amon gor ciolu ba la wacce sama bop woko ñimé jema coup d'état million la wanteré sama show trône bi dafa souré sama gat
coupot bokki ay fokk ji maw la man japp na ni ni ké défé non la li nga def ci rap bi man da ma mu jé war bi rap ya ko makié ba ta fé bota
ari nek ci yoon nek ci dëkk ci baña tok dérëd tu ennemi sama kaw demula dem jiin lima don never give up amna gudi yu tiss duma daw duma fat bu may genn galé papa xol tay ci fils fumu tok lo ñame ñak waye debu neex amul fen talent deug ngeen am yeen sen talent mo mun fen ñime mbu bolay mur
nit du ju boday sul gore ba don esclave mo gën jaay sa ngor ba don bour loxo bu tayal du tabax lu deuguer lo gëna begg na peutax ma tax ba labu ñu ñi di ma neukal welcome to life in the jungle la fa may yobu man saxlo ma peuna wala daaju ci ñax wala pendex fatena demba te japp ci euleuk ñaari loxo gaana mako gënal sa gaay rew tu dem leen di ray ku jëmum yarawul sa neew du rew jëlum ñu ñi jëlé ciet bu bess di nga nangu ba sa cëri bañ sama jëma gën sen def fayna undu fay wesh wesh def ni ñom limay def rek de seni pop ni ba mel tek tek seni prof sama maîtresse lañ kuñ fi ciow ci rap bi may sa père ya ma mën bu dé ku dak fen lim fi yor ci son du xaju jeex ja ma gën may ay mo dak fay diw sa gel mi gën di japp tin diw gelu ñu dak yak der ñepp nul ni lamb lak de guerre
ku bot mo ki ay fokk ak yi mo la man japp na ni ni ke defé non la li nga def ci rap bi man da ma mu je war bi rap ya ko ma ki e bo ta fe bo ta
arrête nek ci yoon nek ci dëkk ci baña tok dérëd ennemi sama kaw dama la dem jiin li ma don never give up duma daw duma fatte bu may genn galé pap xol tay sa fils fu mu tok lo ñame ñak lo ñame lo ñame lo ñame lo ñame ñak lo ñame ñak lo ñame lo ñame ñak
dib do ko yëngal way dib do ko yëngal
bas do ko yëngal way bas do ko yëngal
dib do ko yëngal way dib do ko yëngal
bas do ko yëngal way bas do ko yëngal
bas do ko yëngal bas
Yes, vous êtes toujours privé de sortie et là c'était Deep feat Bastiung, le morceau il s'appelle In I2N et Deep, je vous conseille ça parmi tous, il tue.
Et bah du coup on a évoqué tout à l'heure les Gilets Noirs, donc c'est un collectif de sans-papiers, habitants, habitantes de foyers, militants et militantes qui ont sorti un communiqué, c'était vendredi, donc on écoute ça tout de suite.
Autodéfense immigrée, seule la lutte donnera les papiers. La pandémie de Covid-19 et le confinement, tel qu'il a été mis en place par le gouvernement, servent d'occasion pour attaquer toujours plus les foyers d'immigrés. Nous avons perdu notre travail du jour au lendemain. La police nous harcèle et nous rackette devant nos lieux de vie. Nous sommes menacés d'expulsion par les gestionnaires Adoma, Coalia, ADEF, qui saisissent l'occasion pour chasser les sans-papiers de chez eux. Poussés par les gilets noirs à l'intérieur, plusieurs foyers organisent une lutte au corps à corps contre les gestionnaires. Refus de payer les loyers dans ces conditions d'exploitation, courrier collectif, opération portes ouvertes en chassant le gérant. Nous ne paierons pas pour préparer la riposte contre la destruction de la vie collective dans les foyers et continuer notre lutte pour des papiers et une vie digne. Depuis novembre 2018, nous les Gilets Noirs, immigrés avec ou sans papiers, fils et filles d'immigrés et personnes solidaires, habitants des foyers et locataires de la rue, nous organisons contre l'État et ses complices. Nous exigeons des papiers pour tous et toutes, sans condition. Qu'on soit là depuis un jour ou 10 ans, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Ce papier qu'on nous refuse, c'est celui de la dignité, et nous attaquerons l'État français et toutes ses complices pour l'arracher. Nous ne voulons pas seulement des papiers, mais casser le système qui crée des sans-papiers. Chaque jour, nous discutons de comment améliorer notre vie, se défendre de la police, du CRA, des patrons, de résister à la préfecture. Mais les papiers viendront par la lutte. Et la lutte, c'est pas que pour les papiers. La chose que tu n'as pas vue, c'est dans la lutte que tu vas la voir. Nous avons manifesté devant le musée de l'immigration, devant le centre de rétention du Ménil-Amelot. Nous avons occupé la Comédie Française, bloqué la préfecture de Paris, occupé l'aéroport de Roissy où Air France déporte les immigrés. Nous avons attaqué le siège de l'entreprise Elior, qui fait son argent sur le dos des sans-papiers, et nous nous sommes invités à 600 au Panthéon pour exiger des papiers et un rendez-vous avec le Premier ministre, pour interpeller les grands hommes et pour honorer nos morts en Méditerranée et dans le désert qui n'ont pas de tombe. Contre le Covid-19 et ses complices, autodéfense sanitaire. Depuis que le Covid-19 est en France, on lutte contre le virus. Mais ce sont l'État et les gestionnaires qui nous pourrissent la vie. On vit dans les foyers, comme dans des prisons. Les foyers, gérés par des associations gestionnaires, comme Adoma, Coalia, ADEF, ont été construits pour loger les travailleurs immigrés. Depuis plusieurs années, les gestionnaires veulent détruire l'organisation de nos vies collectives d'immigrés exploités. Ils construisent des résidences sociales qui nous enferment dans des chambres cellules sans espace collectif. C'est nos solidarités et nos luttes qu'ils étouffent. On doit rester seul, sans famille, en espérant ne pas mourir avant le titre de séjour qui nous permettra peut-être d'aller enterrer nos morts au pays, de voir naître nos enfants. Dans ces foyers, nous vivons avec nos frères qui ont des papiers. Mais les foyers sont nos lieux de vie politique. Au début du confinement, les gestionnaires ont fui leurs responsabilités. Pas de consignes, pas de nettoyage, pas de soutien. Ils collent sur les murs du foyer des affiches en français et ferment les salles de prière et de réunion. Ils ne nettoient pas car la javel c'est trop cher. La seule présence des gérants, c'est pour venir prendre les loyers. L'État français, main dans la main avec les patrons, nous fait trimer sur les chantiers, dans les cantines, à nettoyer tout le pays. Sans papier, on est à la merci des marchands de sommeil, de la surexploitation. On doit travailler au noir. Au confinement, on s'est retrouvé sans rien. Pas de chômage, alors pas d'argent pour le loyer, pour la famille ou pour la nourriture. Les gérants veulent notre argent, mais nous, on doit manger, se soigner. Après quelques semaines, sous la pression des préfectures et de ceux qui ne devraient pas crier avec les loups que les foyers sont des bombes sanitaires, les gestionnaires sont revenus dans quelques foyers. Mais on sait qui est qui. Soi-disant pour vérifier les règles de confinement alors qu'ils connaissent la situation dans laquelle on vit. Ils tentent de séparer les pères des fils. Ils mentent, menacent de couper l'eau et l'électricité, font des simulacres de dépistage. Devant certains foyers, ce sont les flics qui raquettent et rôdent. L'État ne veut pas éviter la maladie. Les gérants ne le veulent pas non plus. Ils veulent qu'on meure et ils veulent notre argent. On n'a pas attendu la répression sanitaire pour s'organiser et se défendre. Nous avons mis en place une cagnotte et organisé un réseau de ravitaillement des foyers pour se protéger de la maladie. À l'aide de nos camarades des brigades de solidarité populaire qui soutiennent cette auto-organisation, nous sillonnons les foyers pour distribuer du matériel. Ils se fichent de nous, c'est nous-mêmes qui nous protégeons. Dans les foyers, on a une culture de la solidarité. On gère nous-mêmes la propreté et la désinfection. Les petits frères, on s'organise pour que les grands frères âgés ne fassent plus les courses. On doit faire cette mission pour nos camarades, nos frères, nos sœurs, nos enfants et nos vieux. Car personne ne va le faire sinon. Lutter pour notre dignité, pour la vie collective, pour arracher les papiers. On se défend pour ne pas se cacher. Nous voulons des papiers, mais nous ne voulons pas d'une régularisation comme au Portugal, pour quelques mois, seulement pour certains qui ont leur dossier en préfecture, ou pour ceux qui n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas menacés de déportation. On ne veut pas d'une régularisation comme en Italie, en offrant nos corps pour que les pays européens subsistent sur notre dos. Travail contre papier, c'est un chantage d'esclavagiste. Nous ne voulons pas des papiers pour raison de santé publique, pour plus d'efficacité économique. Pour ce papier, nos âmes sont sacrifiées. On est des humains. Nos droits devraient être entendus. On devrait échanger son âme contre l'industrie ou l'économie des autres. C'est un manque de respect envers les immigrés. C'est une injure. On veut que tous les immigrés, avec ou sans papier, nous rejoignent. Car ce que nous subissons, les immigrés avec papier, en ont été victimes et le seront aussi. Les immigrés et tous les exploités du monde doivent se joindre à nous, les immigrés sans papier. Nous ne sommes pas des ennemis entre nous. La France veut diviser entre ceux qui sont régularisés et ceux qui ne le sont pas. Ici, on vit ensemble. Le foyer, c'est la famille, c'est ton parent. Ils appellent les sans-papiers les suroccupants et nos frères avec des papiers, des résidents. C'est maintenant qu'il faut défendre notre vie collective. C'est notre lutte. Les résidents avec des papiers ne seront jamais libres tant que leurs fils n'auront pas les papiers. Les papiers, jusqu'à nouvel ordre, c'est la clé de toute vie sociale digne. Vivre en famille, circuler librement, travailler, étudier, se soigner, se loger. Nous avons trop demandé aux députés, aux gestionnaires, aux patrons, aux syndicats, aux associations de nous aider à nous régulariser. Il y a eu trop de pétitions, de tribunes qui disent à l'État de protéger les sans-papiers. Trop de députés qui veulent régulariser pour mieux nous envoyer faire le sale travail que personne ne veut faire. Nous ne voulons pas de papiers parce que nous ferions le boulot que les Français ne veulent pas faire, mais pour pouvoir vivre dignement. Nous irons chercher les papiers nous-mêmes, car on ne veut pas de tri. Nous ne voulons pas avoir besoin de mériter les papiers ou de les mendier. Nous avons besoin de combat. Dans la lutte, déjà, on trouve notre liberté car on n'a plus peur. Après le confinement, nous appelons donc tous les immigrés sans papiers et les gens qui partagent nos idées et nos manières d'agir à soutenir notre lutte, à nous contacter, à rentrer dans le combat. Avec ACTA, les Brigades de Solidarité Populaire, le collectif Place des Fêtes, le Génépi, le NPSP, la CREA, l'Action Antifasciste Paris-Banlieue, l'Observatoire de l'État d'urgence sanitaire, la Coordination Militante Dijon, qui appuie ce texte, nous partageons déjà ce combat. Notre force, c'est les soutiens, mais la force des soutiens, c'est nous aussi. Il faut organiser des actions, des occupations, des manifestations, des grèves, des blocages. On peut construire des actions ensemble dans les semaines qui viennent. Nous ne gagnerons les papiers que par la force. Pour exiger des papiers pour toutes et tous maintenant et pour toutes celles et ceux qui vont arriver, la destruction des centres de rétention, la fin des foyers prison et des logements dignes pour tous, contre le racisme et l'exploitation, pour notre dignité et notre liberté. Ni rue, ni prison, papier et liberté, la peur a changé de camp, les gilets noirs sont là. Signé, les gilets noirs en lutte.
La chronique de PF.
Je sais pas pour vous, mais moi, à quasi chaque fois, je réagis en m'exclamant des trucs comme... Alors, je sais pas vous, je sais pas où vous en êtes, mais là, ça y est, ça arrive. Comme si ça ne suffisait pas de vivre coronavirus, de manger Covid-19, de lire confinement, de parler déconfinement, de penser gestes barrières, masques, gants, protection. Ça y est, j'en rêve. Oh là là, ça fait plusieurs nuits déjà. Alors, je rêve de façon plus ou moins floue, plus ou moins approximative et nuageuse, de files d'attente masquées que j'évite en marchant dans la rue. J'entends des évocations au confinement, au déconfinement. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Bon, un peu comme la réalité, finalement. Je vois des masques partout. Bon, un peu moins comme la réalité. Et est-ce que pour vous aussi, c'est en cours? Est-ce que nous sommes tous en train de nous mettre à rêver la nuit de ce que nous vivons le jour? C'est chaud, non? Ça m'a rappelé quand j'avais 15 ans. J'étais allée avec mes parents en vacances en Espagne voir de la famille. Un mois de vacances, waouh. Et quelques jours avant le retour, eh bien, je me suis mise à rêver en espagnol. Alors même que je parlais pas top top, quoi. C'est fascinant le cerveau, hein. Alors justement, pour cette chronique, j'avais pensé faire digression sur ce thème, pour changer un peu, tu vois, me la jouer discuteuse sur le cerveau, le rêve. Mais c'est la réalité fiction qui m'a rattrapée. Alors c'est annoncé depuis un certain temps. C'est demain, le 28 avril, que doit être présenté à l'Assemblée nationale le projet sur l'application Stop Covid-19, afin que soit débattu et finalement voté son adoption ou non pour la stratégie gouvernementale de déconfinement. Alors sans honte, initialement, ce projet devait être débattu, mais pas voté, alors que le premier sinistre n'accepte de lui consacrer finalement un vote. Ah mais c'est des sacrés clowns, hein, à mourir de rire. Bon, et sans revenir sur la dangerosité même de cette appli de merde, qui ne servira bien sûr pas à un quelconque projet sanitaire, mais bel et bien à une surveillance massive de la population, on le sait. Et hop, Vlatipa qu'hier, le même bonhomme annonce qu'il présentera demain à cette même assemblée la stratégie nationale de déconfinement autour de 6 thèmes. La santé, l'école, le travail, les commerces, les transports et les rassemblements. Et là aussi, ce sera soumis au débat et au vote des députés et députées. Et hop, l'art de noyer le poisson. Cette assemblée qui devait être consacrée tout entière à la question du traçage numérique massif de la population sera doublée et en fait étouffée d'une autre question, celle de la sortie du confinement. Car l'enjeu pour le gouvernement de faire accepter le tracking, ça sonne mieux en anglais hein, quand même, en langage start-up. Donc, bon, ce traçage, c'est tout de même un enjeu conséquent, et peut-être pas gagné-gagné d'avance. C'est un sujet brûlant. Du coup, en amalgamant ce sujet à celui plus global de la sortie de confinement, en le noyant dans un plus gros paquet, il ne sera donc plus question de voter pour ou contre le traçage en tant que tel, pour ce qu'il est, mais de voter sur la stratégie totale dans laquelle il sera intégré. C'est pas beau, ça? Le pouvoir exécutif se surpasse en tour de passe-passe, quand même. On doit bien lui reconnaître. Et c'est beau aussi de se dire que les députés vont devoir voter dans la foulée. Comme ça, hop hop, à distance, on peut le dire. Sans réflexion, sans amendement, comme ça, hop hop. Il porte l'art de la mascarade à son top, quand même. Hein. Le gouvernement fait semblant de respecter ces vieilles institutions de contre-pouvoir, qu'on leur fasse confiance ou non, hein, qu'on pense qu'elles agissent vraiment ou pas, peu importe. Mais celles-ci, comme nous, se sont faites souffler, se sont confinées et ne contre-pouvoirisent que peu, encore moins qu'avant. Sans journalistes, sans manifs, sans contre-pouvoir, sans opposition, sous répression et dans la peur. Pouh, ça promet.
Privé de sortie.
Du coup, je vais aller faire la sieste.
Privé de sortie. Privé de sortie.
Privé de sortie.
Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Cinq clashs à Amoul Buzz. Asia Precos, Mangi Terminus Bolege Peda Lego, Jungle Jangoro Gambi, Titan Pharaohs, so you do go right like the Pangeros, Paregul Testama bin the Bindad, let's go, Tonto Bijago will call it the Fadlenko, Patu Munulyombo come my Petar Senko, Dogiskumeleman Benedakar Legos, Lyricist, Pedagogue. Several fists, a perda for. I'm chance, I'm licence, taxi tesar demo. Muno molir mem soy de mad ecole. An alphabet nga bitch, my head are singer. Man get a kusi binde, grammar take on. Muso doba de gekeno kone ola te bon. Mumoy songo te pare wo flip petas temor. Sen gembe like metamorphos. Man la usen gold, the fox a medai de bronze. But forget limo yingle mo ey detai compo. Get our pens and new label, nikaj lay down. Yer mone dab masa show di epargne. Komu me wey Frankie, nan ma vazi tagi sebo. Yon langa tama letimer Django roje musugul pare for tama resamer Elo elbe safal na fepo kam damba jang de khen Def ko dao feka deon fam yu tama letiren Tangol se pussy mama dire ku tama letilen Dragon sen bir zon di anshone esen Omisit volontaire dilan jale ngilak ngeme Nyol kheg delo khaybo saraham yago chigen bitch Dollar amul kare dinar Degas bala de dinyo Yog moti mais entre dinyo Kuri sal pish filo gana kawi you know Hamo nego goro waro foy si so Ensinere say bar dugu sa label def dom Chez turka upu dole sa tron One ma king bu nyeme korono covid is now Denk ma parantezi ndak se dig dat chak Tele ne chuchu tungo ne chikau jiraf Devore aura game become zombie bu siktat Du ay saga moi dokhal regimu diktat Ham da gor MC bu soru je nikta gham Jemi star kholo arif khelu freestyler Sovoro era pebe man la jaki fila lukh Ponyo game bi jopi dao me ne kidnapper Zoro sin taku ma khamni zodo shit Vaccine samay suje wir penga a chloro kim John my love ray flow with karda tang Jaru khucho jela kim zo karda shang Bitch.
Vous êtes bien sur Privé de Sortie sur le 88.4. On arrive sur la fin de cette émission, mais avant de terminer, on va vous passer une dernière participation qui nous vient d'Espace Confiné. Et on fait un gros coucou à F pour cette nouvelle participation.
Chronique d'une douleur profonde.
Ça va ?
Ça pique.
Ça occupe beaucoup d'espace.
Ça aiguë.
Ça aggrave.
Ça fait mal.
Ça habite.
Ça prend de la place.
Ça fait pleurer.
Ça tord.
Ça brasse fort.
Ça déconcentre.
Ça déstabilise.
Ça s'enfonce dans le lit.
Ça dure des jours et des jours.
Ça flippe.
Ça frôle la mort intérieure.
Ça dure des nuits.
Ça étouffe.
Ça insomnise.
Ça vertige.
Ça côtoie les absences.
Ça perd confiance.
Ça culpabilise.
Ça relativise.
Ça empêche des mouvements.
Ça supporte.
Ça épuise.
Ça vomit.
Ça rouille.
Ça violente.
Ne demande pas « ça va ?»
Ça me fout en rogne,
vraiment. Ne dis pas que tu es là alors que tu n'es pas là. Ici, pas de lune de miel, pas de légèreté. Impossible de communiquer à outrance. Ici, en dedans, à l'intérieur, ça se tasse, ça se raidit. Ici, pas de contact physique, sauf pour aider à se relever. Quelles sont les conséquences d'un non-toucher permanent lorsque la douleur est continue et constante ? L'affect, le corps, le cœur et la tête ont littéralement pété les plombs il y a quelques jours. On a appris l'existence de la solitude malgré le fait d'habiter avec 4 autres personnes. Pas mal, hein ? On a appris à ne pas vouloir montrer les vulnérabilités. Intuitivement, pour se protéger, se carapacer, pour survivre. On a appris à se détacher, à s'autonomiser pendant les nuits mouvementées et douloureuses. On a appris à cohabiter avec la mort de 2 êtres aimés. Aliou, le père d'une copine d'enfance, et une tante proche. On a appris à cohabiter avec ses morts et la douleur physique permanente. On a pété les plombs sans retourner sa chambre. On a implosé, explosé, sans rien casser. Pour nous, les chroniques, les cancéreuses, les malades, les immunodéprimés,
les immunodépressives, non, les immunodéprimés, les post-11 mai, les déçus, les sans-attente, les privés de sortie, les vénères, le « ça va » ne suffit pas. Il n'a jamais suffi. Nous sommes certaines à avoir de la ressource, à innover, à pouvoir faire des choses de nos mains quand même, pour occuper la tête, à avoir autour des choses qui nous permettent de souffler, à avoir des amis qui protègent leurs espaces pour pouvoir nous accueillir. Nous avons par exemple un toit sur la tête, une chambre à nous, et pourtant, le ça va, anodin, quotidien, nous pince. Attention, pour d'autres et pour nous, à des moments, il pourrait être destructeur. Et toi, comment ça va ?
Yes, et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont envoyé leur participation.
Merci, ça tue, c'est trop cool.
Ouais, du coup, l'émission, c'est tous les jours de 16 à 17h en direct sur le 88.4 ou en streaming. Et vous pouvez retrouver ça en podcast. Tous les podcasts remarchent dorénavant.
Yes, et puis on en profite pour faire des gros bisous à celles et ceux qui nous écoutent sur Piquet, sur Radio des Confins, à Douarnenez. Salut Cléo, salut Rémi. Salut à Mathéo, salut aux autres, bien sûr ceux qu'on oublie, salut à Fatou aussi. Et puis ben voilà, on se dit à demain 16h comme tous les jours.
Yes, à demain l'équipe.
Ciao, salut,
ciao. Soyez fort.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille, en direct, depuis un appart confiné, bien sûr.